Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Les aides sociales coûtent un pognon de dingue, dit citer Emmanuel Macron. La petite phrase choc du président met en émoi la classe politique. Dans ce journal, le reportage à l'Assemblée de Laurence Perron et le commentaire de notre invité, l'économiste Xavier Timbaud. Les syndicats de la SNCF peinent à maintenir l'unité dans la grève. La CFDT notamment commence à avoir des états d'âme, le reportage de Raphaël Ebenstein. L'Italie en colère après les critiques françaises sur l'affaire de l'Aquarius. Le ministre italien de l'intérieur, le populiste Matteo Salvini réclame des excuses à la France. Paris tente de calmer le jeu, nous expliquera Élise Delève. Emmanuel Macron a tenu à honorer l'une de ses promesses de campagne aujourd'hui à Montpellier. Devant le 42e congrès de la Mutualité française, le président a annoncé le remboursement intégral d'une partie des lunettes et des prothèses dentaires et auditives. Cette réforme dite du reste à charge zéro entrera progressivement en vigueur d'ici 2021. Peu avare de grands mots, Emmanuel Macron n'a pas hésité à qualifier la réforme de conquête sociale essentielle. Voilà pour la jambe gauche du chef de l'État. S'agissant de la jambe droite, Emmanuel Macron a suscité une levée de bouclier en évoquant, je cite, « le pognon de dingue que coûteraient les aides sociales ». C'était dans une vidéo mise en ligne hier soir par sa conseillère en communication, Sibeth Ndiaye. Effet garanti, le pognon de dingue a fait bondir l'opposition. Le reportage à l'Assemblée de Laurence Perron.
Emmanuel Macron a réussi son coup, faire hurler dans un même cœur indigné la gauche et la droite, afin de préparer l'opinion à ce qu'il estime être des sacrifices nécessaires. C'est en tout cas l'analyse de l'ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll.
C'est pas de maladresse, ça c'est une stratégie. Vous cherchez à dire à l'opinion, on dépense trop d'argent. Sous-entendu, on va réduire la dépense. Ce qui est dingue, c'est de l'avoir dit.
La France insoumise considère que la forme, un vocabulaire familier, la mise en scène, une vidéo de travail, est indigne du débat. Alexis Corbière.
Il s'adresse vraiment à l'électorat le plus réactionnaire, celui qui pense que dans ce pays, ça coûte trop cher, les pauvres. Je dis bien, les 100 les plus riches ont perçu chacun 1,5 million d'euros supplémentaires d'argent public qui leur a été rendu. Avec quelle contrepartie ? Que couic !
À sa droite, dans le même registre, Julien Dive, député LR de l'Aisne.
On ne peut pas non plus avoir simplement une politique qui consiste à faire la chasse à ceux qui fraudent éventuellement en bas d'échelle sociale. Il faut aussi chasser ceux qui fraudent en haut d'échelle sociale.
Et vous avez un discours d'insoumis ?
Oui, c'est les riches assistés qu'Emmanuel Macron, c'est vrai.
François Bayrou, qui donnait ce midi à l'Assemblée nationale une conférence de presse, salue lui ce qu'il considère être le courage du président.
Moi, je ne vois dans ses propos aucune stigmatisation. Aujourd'hui, avec ce modèle social-là, il y a des millions de Français qui n'ont pas d'espoir.
Les députés de La République En Marche, eux, se sont fait discrets. Dans l'attente des prochains arbitrages de l'exécutif sur les aides sociales, c'est une consigne de prudence qui leur a été donnée.
Laurence Perron, merci. Invité de ce journal, l'économiste Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE. Bonsoir.
Bonsoir.
Xavier Timbaud, est-il juste de dire que les aides sociales coûtent un pognon de dingue, comme l'a dit Emmanuel Macron ?
Alors, les aides sociales représentent un montant important, et quand on se compare à d'autres pays, on peut trouver que ce montant est plus important, mais d'un autre côté, on sait aussi que si les inégalités avant prestations sociales et redistribution sont à peu près comparables en France et dans les autres pays développés. En revanche, après redistribution, c'est-à-dire une fois qu'on prend en compte l'effet des prestations, elles sont plutôt plus basses que dans les autres pays, ce qui montre que, ben, certes, on dépense beaucoup en prestations, mais avec un résultat qui est absolument incontestable, qui est que ça réduit les inégalités.
Mais est-ce que c'est vrai que ces aides sociales, qui représentent, je crois, un tiers du PIB français, constituent un record mondial, comme le dit le Figaro ?
Alors, c'est un record mondial, mais c'est un record en trompe-l'œil, parce qu'en fait, si elle constitue un tiers du PIB français, c'est surtout parce que notre système de retraite est considéré comme une prestation sociale, alors que dans d'autres pays qui ont un système de retraite, ce système de retraite, par exemple parce que c'est un système qui est hérité du mutualisme et donc qui est considéré comme un accord à l'intérieur d'entreprises d'un même secteur ou d'entreprises tout court, et ben dans ce cas-là, on le compte pas comme une prestation sociale, et donc en trompe-l'œil, ça donne le sentiment qu'on a beaucoup de prestations sociales en France, alors qu'en fait, ce sont principalement des prestations sociales retraite. Donc il faut s'intéresser à la partie qui n'est pas la retraite, et à ce moment-là, quand on s'intéresse à la partie qui n'est pas la retraite, on arrive à une image qui est beaucoup moins isolée de la France par rapport aux autres pays développés.
Mais alors, pourquoi Emmanuel Macron affirme-t-il aujourd'hui que les aides sociales ne suffisent plus à endiguer la pauvreté ?
Alors, c'est un discours assez intéressant qui nous renvoie un petit peu à celui de Tony Blair il y a plus d'une décennie de cela, qui consiste à dire, en fait, il y a des inégalités avant redistribution, ce qu'on appelle des inégalités primaires, qui sont liées au fait que, par exemple, on n'a pas tous le même salaire dans notre emploi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes qualifications, parce qu'on ne travaille pas tous dans le même secteur. Et ces inégalités sont élevées et on est obligé de les corriger par un système redistributif. C'est l'analyse d'Emmanuel Macron, elle est de dire, mais si on arrivait à réduire ces inégalités primaires, on pourrait avoir besoin de moins de redistribution ensuite. Voilà, le problème est que depuis maintenant une bonne trentaine d'années, les inégalités primaires ont tendance à augmenter. La globalisation, le changement technologique, la libéralisation des économies, tout ça sont des facteurs qui ont beaucoup contribué et qui conduisent à une augmentation de ces inégalités primaires et qui en fait mettent sous pression les systèmes de redistribution parce qu'il s'agit d'avoir à corriger de plus en plus d'inégalités. Donc dire je vais faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités primaires, c'est une incantation qui est tout à fait intéressante et pertinente, mais promettre que l'on va réduire les inégalités primaires et justifier que l'on réduise la redistribution aujourd'hui sur la base de cette promesse, ça c'est plus qu'audacieux, c'est assez cynique en fait vis-à-vis de la réalité du monde.
Est-ce que la formation et l'éducation constituent des réponses efficaces pour limiter le coût des aides sociales? Parce qu'on a l'impression que ce sont deux thèmes sur lesquels insiste beaucoup Emmanuel Macron.
Alors oui, la formation et l'éducation sont évidemment des moyens auxquels on pense tout de suite pour permettre une économie sur les prestations sociales. Parce qu'on sait que plus on est qualifié, plus on est diplômé, plus on est formé tout au long de sa vie, moins on a de risques de chômage, de risques de pauvreté, et donc moins on bénéficie de prestations sociales. Donc oui, forcément, quand on est plus éduqué, on est plus protégé d'un certain nombre d'accidents de la vie. Plus on est qualifié, plus on peut accéder à des revenus élevés. C'est quelque chose qui tombe sous le sens. Le grand problème qu'il y a quand même derrière tout ça, c'est que on finit par faire une injonction au fait de se qualifier et on finit par stigmatiser ceux qui sont dans la pauvreté en leur disant, au fond, si tu es dans la pauvreté, c'est parce que tu n'as pas réussi à t'éduquer ou à te former, tu ne réponds pas aux propositions de formation et d'éducation, et au final, c'est de ta responsabilité, c'est un mot qui revient souvent dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est de ta responsabilité si tu es aujourd'hui pauvre, et donc tu ne dois pas t'en prendre au système, aux autres, mais surtout à toi.
Donc il y a un effet culpabilisant, vous diriez, dans ce discours d'Emmanuel Macron ?
Il y a un effet culpabilisant, c'est toute l'ambiguïté du discours sur l'éducation. Il a une dimension positive qui consiste à proposer quelque chose dont on sait qu'il peut produire des résultats et qui peut diminuer la précarité, la pauvreté, l'exposition au risque de chômage. Mais de l'autre côté aussi, quelque chose de culpabilisant qui va dire ben, si vous n'avez pas réussi à saisir cette opportunité, cette chance que la formation ou l'éducation qui vous a été proposée vous a ouverte, à ce moment-là, ça veut dire qu'au fond, vous êtes responsable de la situation dans laquelle vous êtes et que vous ne devez pas attendre grand-chose des solidarités. Donc c'est quelque chose qui, d'un côté, se veut dans un certain élan de générosité, mais de l'autre côté, finit par, en même temps, comme on pourrait dire, finit par produire un refus de la solidarité et donc constitue dans ce sens-là. Il y a une opposition, en fait, entre un solidarisme à la Léon Bourgeois et la méritocratie qui est implicite dans les paroles d'Emmanuel Macron.
Xavier Thimbault, directeur de l'OFCE, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Sans surprise, l'Assemblée a définitivement adopté aujourd'hui la réforme de la SNCF. 452 voix pour, 80 contre et 27 abstentions. Les députés de la majorité, renforcés par les trois quarts des élus LR, ont approuvé le texte. La gauche et le FN l'ont rejeté. La loi pour un nouveau pacte ferroviaire prépare l'ouverture à la concurrence et supprime le statut de cheminot pour les nouvelles recrues de la SNCF. Ce vote n'entame pas la détermination des syndicats qui bouclent ce soir leur 30e jour de grève. Mais derrière l'unité de façade, des dissensions commencent à poindre au sein de l'intersyndicale qui était réunie cet après-midi. Le reportage de Raphaël Ebenstein.
Tout ça pour ça, la longue intersyndicale n'a débouché que sur un maintien du calendrier déjà établi. Et Didier Aubert de la CFDT Cheminots a dû laborieusement justifier sa position d'appeler les seuls conducteurs de RER et de TER à suspendre la grève les 18 et 22 juin pour les épreuves du bac.
La CFDT a demandé effectivement à ce que nos collègues puissent se mettre à disposition de la SNCF pour rassurer les trains du quotidien qui étaient les TER et les RER, tout en continuant à appeler à la mobilisation. Donc c'est une adaptation et pas du tout un allègement d'une suspension.
Un discours qui n'a pas convaincu tout le monde, comme le résume Roger Dylan Seger de l'UNSA Ferroviaire.
Je suis un peu comme vous, j'ai pas tout à fait bien compris, mais voilà, M. Aubert a tenté de s'expliquer, ça me semble pas très clair.
En tout cas, donc, pas de poursuite du mouvement au-delà du 28 juin, dans l'attente de la réunion de ce vendredi sur la convention collective du ferroviaire. Et si le mouvement devait déborder cet été, ce serait la faute du gouvernement pour Laurent Brand de la CGT Cheminots.
Si le gouvernement veut résoudre le problème et que la grève cesse, il a une solution qu'il n'a pas employée jusqu'à présent, c'est une vraie négociation sincère.
Bref, plus sincère que l'unité syndicale a encore affiché, malgré d'évidentes divergences de vues entre les quatre grandes fédérations de cheminots.
Raphaël Ebenstein, merci. Et le taux de grévistes a atteint aujourd'hui son plus bas niveau, 12,78% selon la direction. La grève par épisode à la SNCF reprend dimanche prochain. Toujours au chapitre social, la CGT, Force ouvrière et plusieurs organisations étudiantes ou lycéennes appellent à une journée d'action le 28 juin prochain, journée interprofessionnelle pour la défense, je cite, de notre modèle social et républicain dans un contexte d'explosion des inégalités. Fin de citation. Giuseppe Conte sera-t-il à Paris vendredi pour rencontrer Emmanuel Macron à l'Élysée comme prévu? Rien n'est moins sûr ce soir. Le nouveau président du Conseil italien entretient le doute car les populistes au pouvoir à Rome n'ont pas du tout apprécié les leçons de morale du président français sur la crise migratoire. Rappelons qu'Emmanuel Macron avait dénoncé hier le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie après son refus d'accueillir l'Aquarius et ses 629 migrants à bord. L'affaire a tourné à la crise diplomatique. Aujourd'hui, l'ambassadeur de France à Rome a été convoqué et le ministre italien de l'économie a même annulé un déplacement à Paris. Mais ce soir, Élise Delève, la France tente de calmer le jeu.
Quelques heures avant de prendre l'avion pour Paris, Giovanni Tria annonce qu'il ne rencontrera finalement pas son homologue français. Réponse immédiate de Bruno Le Maire, il dit regretter cette décision. Se montrant ouvert, il demande à ce que la rencontre puisse avoir lieu très vite. Une main tendue visiblement saisie, puisqu'après un entretien téléphonique, les deux hommes s'accordent pour se voir dans les prochains jours. Avant le ministère de l'économie, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a tenté d'apaiser la situation. Nous sommes parfaitement conscients de la charge que la pression migratoire fait peser sur l'Italie, indique la porte-parole du Quai d'Orsay. Aucun propos tenu par les autorités françaises n'a bien entendu remis cela en cause. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, demande des excuses à la France. L'Élysée assure qu'elle n'a pas reçu de demande officielle. Dans ce contexte, la visite du Premier ministre italien à Paris ce vendredi va-t-elle être remise en question? Les Italiens y réfléchissent. Dans l'entourage du président français, on souhaite que la rencontre ait bien lieu.
Élise Delève, la Coupe du monde de football débute demain en Russie, mais d'ores et déjà la FIFA prépare les prochaines éditions du Mondial. La Fédération internationale a ainsi attribué aujourd'hui l'édition 2026 à trois pays associés, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Une fois de plus, la candidature du Maroc a été écartée. Comment les Américains, les Canadiens et les Mexicains arriveront-ils à organiser ensemble une telle compétition, alors que les trois pays se divisent sur les questions commerciales ou migratoires? Leurs dirigeants ont tenu à rassurer la FIFA, à commencer par Donald Trump. Pauline Simonet nous appelle de Washington.
Donald Trump s'est félicité de la victoire dans un tweet matinal. Une bonne nouvelle, ce sera un tournoi formidable, estime le Premier ministre canadien. Nous serons profondément unis, se réjouit pour sa part le président mexicain. Mais l'annonce ne pouvait pas tomber à un pire moment pour les trois pays dont les relations sont au plus mal. Donald Trump a imposé à ses voisins comme à l'Europe des taxes sur l'acier et l'aluminium et est engagé dans un échange virulent avec le Premier ministre canadien. Quant aux relations avec le Mexique, elles sont envenimées en plus par les questions d'immigration, Donald Trump menaçant d'envoyer l'armée à la frontière entre les deux pays. Les lois anti-immigration de Donald Trump ont d'ailleurs été une source d'inquiétude qui risquait d'affaiblir le dossier nord-américain. Le président des États-Unis a même dû écrire trois lettres pour rassurer la FIFA, dans lesquelles il s'engage à ce que non seulement les joueurs et membres des délégations, mais aussi les fans puissent entrer aux États-Unis sans restriction.
Pauline Simonet aux États-Unis. Un mot de la météo demain, toujours nuageux sur la majeure partie du pays, avec 12 départements en vigilance orange pour les crues dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quelques pluies seront possibles en journée, mais le soleil s'imposera dans le sud-est. Les températures minimales iront de 9 à 14 degrés en général, les maximales de 17 à 20 degrés près de la Manche, 20 à 25 en général, jusqu'à 28 degrés sur le sud-est et la Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.